On pouvait très bien considérer qu'autrefois, les autres nations s'inclinent pas devant Jérusalem, devant Israël, parce que c'était un concurrent, d'une certaine manière, était au même niveau. Tandis que désormais, la Jérusalem, elle est céleste, hein, c'est un Israël spirituel, et désormais, toutes les nations peuvent s'incliner devant cette Jérusalem spirituelle parce qu'elle est la voie qui permet à leurs membres de ne pas rester, comment dire, prisonniers du monde, de la temporalité, mais d'accéder à l'éternité. Voilà. Alors, donc saint Augustin dit clairement que, tout en cherchant à rassurer ceux qui avaient été émus et plus qu'émus par le sac de Rome, qu'aucune grandeur d'ici-bas n'est éternelle. Alors ça, c'est terrible quand on aime bien l'histoire et puis l'architecture, etc. Saint-Pierre de Rome, ça tombera un jour ou l'autre. Hein. C'est déjà tombé. Hein. La basilique constantinienne, on ne la voit plus. Hein. Mais bon, bah, peut-être qu'on aura autre chose à la place. Mais enfin, bref, tout ce qui fait notre fierté, en fait, ça finira un jour. Et la seule chose qui ne finira pas, eh bien, ce sont nos âmes. Voyez. Augustin se livre à une lecture typologique de l'écriture et de l'histoire pour étayer son propos. Ben, il va remonter jusqu'à Caïn et Abel, évidemment, qui incarnent les deux cités, la cité terrestre et la cité céleste, Rome et l'Église, si on veut. Alors, les deux cités, dit-il, ne sont pas clairement reconnaissables dans elles se mêlent dans le cœur de chacun. Il parlera de permixtum, de choses qui sont mêlées. Ça signifie que la cité de Dieu n'est pas temporelle, qu'elle ne se réalise pas sur terre, qu'elle ne se réalisera jamais sur terre, même sous un hypothétique gouvernement ecclésial. L'empire même chrétien, dira Augustin, reste humain et en ce sens démoniaque. Et l'Église, pour Augustin, c'est la communauté de foi qui ne cesse de se recevoir du Christ dans l'unité de la charité et qui est rendue visible par la communauté épiscopale. Donc, ce qui en fait une nation, entre guillemets, eh bien, ce sont ces institutions visibles, mais qui ne sont plus le roi les institutions du temple, mais qui sont désormais le collège des successeurs des apôtres. Donc, elle a bien comme une sorte une forme institutionnelle, hein, visible, une visibilité, mais une visibilité qui n'est plus de l'ordre des États ou des nations temporelles qui, elles, sont, comment dire, caduques, en somme. Et Étienne Gilson, vous savez, le grand historien de la philosophie antique et médiévale, dira que l'Église, c'est la partie pérégrinante du royaume de Dieu. La partie pérégrinante du royaume de Dieu. C'est-à-dire le royaume de Dieu, il est au ciel, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de créer le royaume de Dieu sur la terre. Tous ceux qui ont essayé sont tombés dans les pires hérésies totalitaires. Mais il s'agit en quelque sorte de faire passer les gens qui appartiennent à toutes ces cités temporelles. Plus ou moins conforme au droit naturel, plus ou moins juste, et bien de les faire passer génération après génération dans le royaume de Dieu. Alors c'est là que du coup l'implication des chrétiens redevient déterminante. Parce que il y a différentes nations, différentes formes de culture, d'ordre politique, et certains sont plus proches de la morale évangélique que d'autres. Et donc c'est plus facile de réaliser ce passage continuel, génération après génération, de la cité d'en bas à la cité d'en haut, dans le cadre d'institutions temporelles qui sont plus favorables. Hein, donc, si vous êtes dans un état qui est une culture qui est bien imprégnée de christianisme, vous avez normalement plus de facilité de faire votre salut. Mais là encore, vous savez que ce n'est pas une règle générale, puisque la cité temporelle étant toujours la cité temporelle, elle a toujours tendance à tomber dans l'hypocrisie ou dans... enfin bref, à faire en sorte que les choses soient jamais parfaites et que du coup, ça peut faire en sorte que des gens bah, qui devraient se convertir ne se convertissent pas ou restent médiocres, bon, etc. Et vous savez aussi que des sociétés parfaitement opposées au christianisme et à sa morale, et même ayant détruit les fondements de sa culture, parviennent certains de leurs membres parviennent à la sainteté en luttant contre. Parfois, le bruit des bottes, ça réveille des âmes endormies, alors que les vapeurs de l'encens continuent de les laisser, comment dire, vivoter en bas, quoi. C'est vrai, hein, ça arrive souvent, ça. Regardez l'Espagne nationale catholique, là, de Franco, c'était parfait. Les cardinaux participaient au conseil, bon, etc. Tout s'est effondré en 10 ans, c'est quand même terrible. Et puis de l'autre côté, on voit les pays bolcheviques là qui ont réussi enfin, c'est comme avec la grippe en ce moment, quoi. Ça fait des anticorps. Et alors, du coup, c'est vrai, hein, quand on est dans un milieu trop aseptisé, et ben finalement, on dégringole au premier microbe. Et
L'église
puis,
orthodoxe s'est réveillée.
ben oui, elle s'est réveillée. Ben oui, alors là, il y avait des anticorps. Hein, ils ont été.
Grâce au baba.
Oui, aux vieilles, là, oui, aux
Grand-mère.
grand-mères. Alors, donc, vous voyez un petit peu l'idée de. Quand on parle d'augustinisme, l'augustinisme politique, c'est vraiment quelque chose de très différent. Augustin a une vision extrêmement équilibrée de la. Enfin, réaliste, je ne dis pas pessimiste, mais réaliste, enfin, en tout cas, pas naïve. Hein, pas naïve du tout. Il sait très bien que la situation ne peut jamais être parfaite. Alors, de temps en temps, on voit que dans l'un ou l'autre État, l'une autre nation, on arrive à une sorte de point d'équilibre, on peut se dire même à un apogée. On peut penser par exemple à l'Empire ottonien, à une certaine période où il y avait une véritable symphonie, on peut dire, entre Rome et puis l'empereur, entre le pape et l'empereur. Vous savez, à l'époque où Othon distribue les couronnes à toutes les nations qui se convertissent, là, et en même temps il distribue ses sœurs et ses filles au prince en question. Vous savez, la conversion de la Pologne, la conversion de la Hongrie, tout ça se fait sous l'égide de l'empereur et du pape. Mais l'ennui, c'est qu'en général, ce sont des périodes qui durent quoi, 10 ans, 20 ans, et après, ça retombe. on a quelques cas semblables, mais on voit bien quand même que ce sont des périodes rares quand même dans l'histoire. Très rapidement, il y a une pesanteur qui fait que, comme disait l'autre, dès qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Et un renouveau catholique après la Révolution française, où les prêtres ont été fidèles, rudement persécutés.
Ah, bah oui.
Rudement.
Ah, bah oui, regardez, la
renouveau
restauration,
catholique.
ça a été. La restauration politique, autant elle a été, comment dire, relativement modérée, hein, sur le plan religieux, sur le plan politique. ça n'a pas été la revanche. Hein. Il n'y a pas eu d'épuration comme en 1944, hein, à part deux, trois qui ont été fusillés. Mais le... Oui, oui. Oui, à cause des 100 jours. Parce que, oui. Et, mais en revanche, il y a eu véritablement eu un réveil chrétien pour un siècle là, en France. Oui, missionnaire.
Ah oui, missionnaire.
Alors qu'à la fin de l'Ancien Régime, il ne faut pas se leurrer, hein, c'était, il y avait des abbayes où il n'y avait plus qu'une demi-douzaine de moines qui étaient... Enfin, il y avait un endormissement général du christianisme. Et c'est terrible, mais moi, ça me fait toujours penser, vous savez, au mythe d'Anté, là... ce titan qui, quand je crois que c'est Hercule, quand il est mis à terre, c'est là qu'il reprend des forces. Et c'est très.
D'un autre côté, la violence de la persécution anti-religieuse, qu'elle soit soviétique ou révolutionnaire, tirait ses forces du fond chrétien. C'est-à-dire que c'était une religion de substitution idolâtre. Mais. C'est la discipline chrétienne qui avait formé des Fouchés à être très fort dans la persécution.
Oui,
c'est quand même assez curieux.
Oui, c'est très vrai. Oui. Et en plus, après, quand il y aura les idéologies qui seront un petit peu cette volonté d'instaurer un royaume de Dieu sécularisé sur Terre, ça sera fait avec la même, je dirais, fougue, hein, finalement, que la mystique, en fait. Hein. Mystique. Vous savez, comme qui disait ça, c'est Peggy, non, qui disait que tout commence en mystique et tout finit en politique. Hein.
Oui, c'est ça, au de Charles VII, je crois.
Oui, et c'est pas faux. Hein. Et en particulier avec tous ces mouvements sécularisés, comme par exemple le bolchevisme, c'est instaurer le royaume de Dieu, la parfaite charité au terme de l'histoire, mais pas au terme, justement, pas au-delà de l'histoire par grâce, mais on pourrait dire d'une manière pélagienne, à l'intérieur, en introjetant ça dans l'histoire, à l'intérieur de l'histoire, et en démolissant tout ce qui s'y oppose. Hein. C'est la lutte, comme vous disiez, c'est la lutte contre le péché, c'est la lutte à mort d'un abbé de Rancé, de tous ces grands saints contre le péché. En fait, c'est ce que tous ces révolutionnaires athées ont fait contre ce qui leur apparaissait comme étant le péché, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposaient à cette idée de perfection sur la terre. Alors c'était les classes possédantes, ceux qui pensent différemment, ceux qui vont pas assez vite dans le mouvement.
Enfin, bref, etc.
Et c'est Xavier Martin qui a montré, et puis Jean de Vigry, comment on a voulu réformer, faire l'homme nouveau. Mais vous savez, la parole de saint Paul, ça a fait des drames. Enfin, la parole de saint Paul, si elle n'est pas prise avec la pensée de saint Paul, c'est-à-dire la primauté de la grâce sur la nature et la réalisation surnaturelle de l'homme nouveau, ça vous donne la terreur révolutionnaire, ça vous donne l'homme nouveau soviétique, ça vous donne l'homme nouveau national-socialiste, etc., etc. Donc, et avec la même, comment dire, le même acharnement pour parvenir au résultat que.
Mais une nostalgie de son origine, mais privée de Dieu. Dieu
oui, oui.
Mais Staline disait qu'il était ingénieur de l'âme.
Ah oui, oui, oui. Et en plus, il était passé par. Oui. Regardez, tous ces grands criminels sont tous passés par le séminaire. Oui. Fouché, l'était oratorien. l'abbé Sieyès, tous ces gens-là.
Il y a beaucoup de prêtres à la Réforme française qui étaient parmi les pires.
Oui, exactement, oui. C'est ça, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Enfin, on tombe très bas quand on est très haut, oui, c'est ça. Mais Staline, c'est ça. Hitler, peut-être moins, mais enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que... alors, ce qu'on appelait plus tard l'augustinisme politique, c'était une sorte de volonté de théocratique, en quelque sorte, de soumettre l'État à l'Église. Mais la position vraie d'Augustin, c'est pas du tout ça. c'est pas de soumettre l'État à l'Église, mais de faire en sorte que, comme le dit très bien Ratzinger, qui est vraiment augustinien, quand il s'est rendu en Angleterre, vous vous souvenez, et que qu'il a fait l'éloge de Thomas More à l'endroit où il a été, à Westminster Hall. Et c'est là qu'il a dit que l'Église et l'État, d'une certaine manière, ont un devoir mutuel, c'est de se critiquer. C'est-à-dire que l'Église doit poser des questions gênantes à l'État, des questions qui viennent du droit naturel, etc. Donc critiquer l'État, et que l'État également doit pouvoir critiquer l'Église, qui peut avoir tendance à se laisser aller aussi.
C'était la position de Saint-Louis quand il...
Oui,
certaines prétentions de l'Église.
Voilà, là qui étaient des prétentions plus théocratiques. Oui. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a un dialogue constructif qui doit être mené dans la vérité de part et d'autre.
La question de conscience qui est maintenant menacée de manière très précise.
Ah oui.
Que l'Église n'a plus le droit de parler.
Oui, voilà, exactement. Et c'est exact. Alors, vous savez, l'air de rien, Ratzinger est quand même un peu prophétique. Hein. Ce qu'il avait dit à Londres, précisément, c'était le droit. Si l'État a le droit de critiquer l'Église pour des raisons d'empiètement, de tout ce que vous voulez, eh bien, l'Église a le droit de critiquer l'État sur un certain nombre de positions, etc., etc. Et là, nous, en France, on a l'impression que sur certains points, on s'approche dangereusement d'une société totalitaire. C'est même ce qu'a osé dire notre archevêque. Il a parlé de dictature. Voilà. On s'approche d'une dictature. Alors, je regarde là. Et donc, je disais... De quoi je parlais juste avant ?
L'augustinisme politique.
Voilà. Oui, alors donc l'augustinisme politique, on va essayer d'en faire un peu, de transformer un peu d'imiter en quelque sorte l'Empire d'Orient, avec la soi-disant prééminence de l'Église, qui est en fait, on pourrait dire dialectiquement, là aussi, la mise au pas de l'Église par l'État. Parce que c'est très beau de dire que le patriarche, il y a une symphonie, l'Église et l'État, mais en fait, comme c'est l'État qui nomme le patriarche et qui le destitue quand il ne lui plaît pas, on s'est bien rendu compte que cette espèce d'institutionnalisation de la relation s'est faite au détriment de l'Église, en fait. Hein. Comme d'ailleurs en Russie aussi. Hein. Mm-hmm. C'est pas tellement la hiérarchie qui a résisté, c'est plutôt le peuple. Puisque de toute manière, il y a un bon nombre de métropolites qui étaient des officiers du KGB. Il y en a même qui sont vraiment convertis, hein, vous savez.
Mm-hmm. Oui,
Mais il y a pas très longtemps, oui, qui était un colonel du KGB.
Il était État-Église. Clovis, il a bien été nommé par l'Église.
Ah oui, Clovis, il a été. Alors nommé, c'est quand même.
J'ai pas entendu ce qu'a dit.
Clovis.
Oui. Alors nommé, il a été, disons, choisi.
Choisi,
mais c'est de toute manière, l'Église pouvait pas le nommer parce que je veux dire, les pauvres évêques n'avaient.
Il était déjà nommé quand même.
Oui.
Il était roi de son peuple, mais
il avait des concurrents.
Ah oui, il a des concurrents. L'Église avait opté pour lui parce qu'il était catholique et non parce qu'il était rien du tout. Et on pensait que c'était plus facile de convertir un rien du tout au catholicisme que de transformer un arien en catholique. Et ça a marché d'ailleurs. C'est le pari de Saint-Avit, Saint-Rémy, etc. A marché. Je crois que votre baptême est notre victoire, je croyais, a dit Saint David de Vienne, hein, il me semble.
À Clovis.
Oui, dans une lettre. Parce que là, tiens, justement, De Villiers, si je ne me trompe, a écrit un bouquin sur Clovis. Et alors lui, il recule encore davantage la date du baptême. Que Michel Rouche, lui, l'ouvrage qu'il avait publié en 96, considérait que 96, vraiment, c'est pas la bonne année, mais c'était au plus tôt le 499 ou 501, 502, et Villiers, lui, il va jusqu'à 508.